France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Vincent Lindon. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Enfants de la rue de Tekem Djafakoli. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir au festival de cinéma Regard Satellite à Saint-Denis. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Jean-Guilain Meige à la prise de son. Bonsoir Vincent Lindon.
Bonsoir.
On vous verra demain à l'affiche de Comme un fils, réalisé par Nicolas Boukrieff, ce qui me donne cette occasion de vous accueillir ce soir pour parler de ce film, bien sûr, mais aussi pour en savoir plus sur ce qui vous a conduit vers ce métier, sur la façon dont vous l'exercez. Mais comme vous avez déjà répondu à des centaines, des milliers de questions, je me doute qu'aucune de celles que je pourrais vous poser ce soir ne serait pour vous une première. Alors j'ai eu envie de vous proposer d'écouter quelques voix au fil de cette émission, écouter quelques voix ensemble pour que vous puissiez commenter leurs propos. Alors, bon, dire tout d'abord que votre premier choc cinématographique est lié à la performance d'Alain Delon dans Le Clan des Siciliens. Vous avez 8 ans à ce moment-là. Quelques années plus tard, vous deviendrez un pilier de la Cinémathèque française. Vous voyez souvent 4 films par jour. Vous vous nourrissez de toutes les cinématographies. Peut-être que la vocation se fait plus précise à ce moment-là, parce que vous avez passé un bac C, scientifique. Vous avez débuté une prépa de commerce, mais vous n'y restez pas longtemps, préférant un stage d'assistant costumier sur le plateau de Mon Oncle d'Amérique, d'Alain René. Alors, comment en êtes-vous venu à vouloir être comédien? On va l'évoquer, mais avant cela, on va écouter un collègue. On va écouter Jean Gabin.
J'étais manœuvre et magasinier au magasin Génois Automobile de région libérée à Drancy. J'ai commencé à travailler à 14 ans, moi. J'étais seul, j'avais perdu ma mère, j'étais seul et mon père n'avait pas trop le temps de s'occuper de moi. J'étais à l'école jusqu'à 14 ans, 14 ans et demi, quoi. J'étais un élève très moyen, quoi. Je jouais avec les gars, quoi. Je jouais avec des copains, on jouait aux plumes, sur le trottoir dans la rue. J'étais livré à moi-même très jeune, vous savez, quand il faut gagner sa croûte, ben faut essayer de gagner sa croûte, faut travailler. Alors, ben, quand on travaille, ça demande du temps. Alors, on n'a pas le temps. Je pense que les gars de ma génération, quand ils étaient jeunes, mômes, les gars, ils pensaient surtout à faire leur matériel pour manger, payer la chambre, et puis c'est tout, quoi. Puis ça n'allait pas plus loin. On bossait, on n'avait aucune ambition, si j'ose dire, que l'ambition de gagner sa croûte, de travailler pour pouvoir vivre. C'était au jour le jour, ce qui m'empêchait pas d'avoir une vie très agréable, ça m'empêchait pas d'aller danser avec les filles, ça m'empêchait pas d'aller jouer au football. Moi, j'étais très heureux. J'étais très heureux, j'enviais personne. À l'encontre de tous les gars qui ont voulu faire ce métier, moi, je voulais pas le faire. Parce que je voyais mon père apprendre ses rôles, parce que mon père était dans le métier. Ma mère aussi, elle fait son tour de champ. Moi, je suis un gars de la balle. Moi, je voulais être mécanicien de locomotive à 17 ans. J'ai jamais eu envie de rien, moi, dans la vie. Jamais. J'ai jamais été ni envieux, ni envie de quelque chose. Tout ce qui m'est arrivé est arrivé très naturellement, en bossant, en travaillant, quoi.
Alors, Jean Gabin, qu'est-ce qui représente pour vous Vincent Lindon?
Bah déjà, je sais pas à quoi va servir mon interview, puisque il y a qu'à prendre la sienne et puis la répéter. Je suis exactement le talent à part et la carrière à part pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que si on y a pas un peu d'espoir, on peut plus avancer. Mais je pense exactement comme lui. Donc c'est drôle parce que quand vous commenciez à me dire, vous avez déjà répondu à toutes les questions. Alors je vais faire autrement et on va parler de quand est-ce que vous êtes venu, quand est-ce que vous avez eu cette vocation. Jamais. J'ai jamais eu la vocation. J'ai jamais voulu être acteur, moi. Alors de là, rien ne m'intéressait. Oui, presque rien. J'ai mis beaucoup de temps à aller au bac, péniblement, mais assidûment. Et puis après, j'ai voulu faire une préparation dans une école de commerce, mais j'aurais pu faire n'importe quoi. Moi, ce que je voulais faire, c'était exactement comme disait Jean Gabin. Moi, ce que je voulais, c'était travailler et mon travail le faire bien. Donc c'est mon obsession, le travail. Alors ça aurait pu être cordonnier, ça aurait pu être agriculteur, ça aurait pu être boucher, ça aurait pu être photographe. C'est juste à partir de 8h le matin, eh bien. Et c'est une coïncidence, je me suis retrouvé sur un plateau de cinéma comme stagiaire costume sur un film de Alain René qui s'appelait Mon oncle d'Amérique, et je m'occupais des costumes de Gérard Depardieu, j'avais 19 ans. Et puis de là, j'ai été propulsé comme Roddy sur la tournée de Coluche. Et donc effectivement, bah, j'ai croisé quand même deux personnes qui sont qui sont pas banales, quoi, qui sont des monstres sacrés, chacun dans leur métier. Et après, j'ai repris le cours de la vie, j'ai travaillé dans un journal où j'avais une petite rubrique qui s'appelait Téléphone Service, où je démarchais les clients. Et le soir, on m'a dit qu'il y avait une école de théâtre où il y avait plein de gens sympas, il y avait plein de, comme Jean Gabin, plein de filles très sympas, plein de mecs. Et donc j'y ai été, puis j'ai fait 3 heures de cours le lundi, 3 heures le mercredi, 3 heures le vendredi, les cours du soir. Et puis il y a un metteur en scène qui m'a remarqué, alors j'ai fait 1 minute dans un film, puis après 4 minutes, puis 12, puis 16, puis... Et je suis devant vous là. Mais ça a l'air prétentieux, mais alors quand ça vient de lui, c'est pas prétentieux. Si ça vient de moi, est-ce que ça va l'être un peu plus? Mais en fait, oui, les choses sont venues très naturellement dans la vie.
C'est pas prétentieux,
non,
c'est
mais les choses viennent. J'ai jamais été chercher incroyablement les choses. Une fois que je suis dedans, par contre, alors là, c'est pas pareil.
Ça, on va en parler.
Là, je me donne du mal. Une fois que je suis sur le circuit, bah oui, j'essaie d'être dans les partir en pôle ou en deuxième ou en troisième ou en quatrième ou en cinquième. Mais j'essaye en tout cas, même si je reste en position 20, mais au moins j'essaye. Mais je fais beaucoup plus d'efforts une fois que je suis sur la piste pour partir bien placé que le fait de rentrer sur la piste. J'ai toujours été très fataliste. Si je me suis jamais vraiment battu pour faire un film, ou il y a très très longtemps en tout cas, mais il vient, c'est naturel. Il faut pas forcer les choses. Voilà, donc...
Vous avez évoqué deux personnes importantes, donc Jean Gabin, Coluche. Peut-être qu'on en reparlera de Coluche, mais c'est vrai que lui, il dit Gabin, c'est un enfant de la balle, il avait une voie peut-être toute tracée, mais la vôtre aurait pu être tout à fait différente, avec une famille où il y avait des politiques, des juristes, des industriels, des éditeurs, des journalistes. Mais je crois que la figure la plus importante, vous l'avez dit souvent, c'est celle de votre père, Laurent Lindon, qui était cadre dans l'industrie automobile, mais qui préférait déjeuner avec les ouvriers qu'avec les cols blancs. Cette fibre sociale, qui peut aussi faire penser à celle de Jean Gabin et qui nourrit vos rôles, Vincent Lindon, ça vient de lui ?
Oui, je crois qu'on est que ce qu'on a vu. Éduquer, c'est répéter, mais je pense que les enfants ou un adulte n'est que ce qu'il a vu. Et il faut qu'il y ait des preuves. Et moi, mon père, oui, non seulement il préférait déjeuner avec les ouvriers qui avaient l'école blanc, mais surtout son meilleur ami jusqu'à aujourd'hui. J'ai même été le voir près de Mâcon, il y a 2 mois, qui s'appelle Paolo. Et ce Paolo, il était essayeur chez Fiat, quand mon père était, je sais pas, sous-directeur ou sous-directeur, bon, bref, dans les années 59-60, au moment où moi je suis né. Et ce Paolo, il était chargé de ranger les voitures d'essayage. Quand un client faisait un tour avec une voiture, il était chargé de la garer en bas. Et quand ils se sont séparés avec ma mère, mon père a emménagé avec Paolo. C'est incroyable. C'est dans un film, on le croirait pas. On dirait oui, mais ça c'est vraiment un scénario. Le patron avec l'ouvrier qui habitent ensemble.
Mais c'est ça votre modèle.
Oui, ils se sont jamais quittés et j'ai toujours été élevé comme ça. Et j'ai toujours vu mon père parler avec les agriculteurs, les gens à la campagne, les ouvriers, les barmanes. Il y a que ça qui l'intéressait. Et il pensait que c'était la plus belle richesse. Et il avait toujours l'impression que ce que les autres lui disaient, il le savait déjà. Et donc j'ai vu ça. En fait, j'ai été témoin de ça. Alors après, ben, quand on aime son père et qu'on l'admire, on se dit je vais faire comme lui.
Alors, on va faire quelques allers-retours dans la chronologie, Vincent Lindon, mais pour tout d'abord évoquer le rôle-titre que vous tenez dans Fred, de Pierre Jolivet, en 97, polar social. Vous êtes un Grutier. Il y aura un autre film avec Pierre Jolivet, Ma petite entreprise, avec une tonalité beaucoup plus comédie, mais grand succès, public, critique. Là, vous êtes un patron d'une petite entreprise. Viendra Welcome de Philippe Lioré en 2009, consacré aussi à des réfugiés clandestins. 2015, La loi du marché, le film de Stéphane Brisé. Chômeur de longue durée, contraint de devenir vigile dans un supermarché. Tel est votre rôle, qui vous vaut notamment le prix d'interprétation masculine à Cannes et un César du meilleur acteur. Lumière du meilleur acteur, Magritte d'honneur, bref. Mais si je parle de ces films-là, il y en a eu d'autres, comme le film de Nicolas Boukrieff, Comme un fils qui sort demain, c'est pour évoquer que le fait que le cinéma peut nous parler du monde, tel qu'il va mal, souvent, et que c'est une part importante de votre filmographie. Alors un autre collègue à vous faire écouter avant de parler de ces films-là, c'est Yves Montand, interviewé par Yves Mourouzi sur France Inter en 73. C'est au moment de la sortie de État de siège de Costa Gavras.
Nous avons décidé de faire un film qui s'appelle Z, parce que le réalisateur était grec, aujourd'hui il est français, c'est Costa Gavras, qui était une chose qui lui jaillissait vraiment intérieurement, et non pas en disant on va faire un film politique parce que ça rapportera de l'argent, on ne sait jamais ce qu'on va faire un film, avec des difficultés incroyables pour monter l'affaire, où nous avons eu tout le monde contre nous. Le film sort, pendant 3 jours il ne marche pas, il y a l'appui total de la critique, y compris la critique dite intellectuelle, et subitement le film marche. Mais avant que le film marche, toutes ces critiques ont salué enfin un film qui sort du lit conjugal, qui sort, qui respire, etc. Le film, faisant le succès que vous savez dans le monde entier, interdit évidemment dans beaucoup de pays, alors ça devient louche. Comment se fait-il que ce film, qui se veut politique, fasse de l'argent? S'il fait de l'argent, c'est que donc il est inquiétant. S'il fait de l'argent, c'est que donc il ne dérange pas le pouvoir. Mais c'est pas là le problème pour moi. Le problème était de faire un film comme Z pour démontrer dans une salle de 1000 personnes, s'il y a simplement que 30 personnes à chaque séance qui se disent « Ah ah, pour abattre quelqu'un qui gêne un pouvoir ou les pouvoirs, voilà comment on s'y prend et voilà comment on s'y est pris en Grèce, j'estime qu'on a atteint notre but, point à la ligne. » Et nous n'avons pas prétendu, messieurs les cinéastes et messieurs les critiques, voilà comment il faut faire un film politique. Ce sont des portes ouvertes. À vous de prendre autre chose et de traiter autrement. Mais on dit, vous ne traitez pas les problèmes politiques français. Mais les problèmes politiques français, les arguments qui s'y prêteraient, sont très difficiles à porter à l'écran. Non pas à cause de la censure, c'est pas vrai. Mais peut-être que l'élément que nous porterions à l'écran sur ce qui ne va pas en France ne serait pas suffisant pour faire un spectacle. Ne serait pas suffisant, justement, pour avoir la possibilité d'amener un nombre considérable de gens pour leur expliquer les problèmes qui ne vont pas dans notre pays.
Alors Yves Montand, encore un comédien que vous aimez beaucoup, Vincent Lindon.
J'aime bien, je vous fais remarquer, oui. Je dis rien, mais quand vous me dites, je vous fais écouter un de vos collègues.
Bah oui.
Oui.
Bah Jean Gabin, Yves non, Montand, bien, sont oui. Des collègues.
Oui, c'est sûr, on fait le même métier, oui d'accord.
Mais alors, contrairement à ce que vient de dire Montand, enfin pas contrairement, mais vous lui avez donné tort avec Pierre Jolivet, avec Philippe Lioré, avec Stéphane Brisé, demain je l'espère avec Nicolas Boukrieff. Vous avez réussi, dans ces films-là, à amener le grand public voir donc ces films qui parlent des problèmes en France. Comment est-ce que vous expliquez ces succès, Vincent Lindon ?
Je ne pense pas que ça soit le sujet politique au départ. Je pense que c'est d'abord des films qui sont humains. C'est la petite histoire dans la grande histoire ou la grande histoire dans la petite histoire. Ça dépend par où on part. On peut raconter un film toujours différemment, le film de Nicolas Boukrieff comme un fils. On peut dire c'est l'histoire d'un professeur qui en a un peu ras-le-bol du système d'enseignement. C'est trop compliqué, c'est fatigant. Et en fait, il a envie d'arrêter. C'est l'histoire de cet homme. Et tout d'un coup, bah, il croit sur sa route ce jeune Rome qui va le réveiller, et peut-être il va prendre cet enfant comme fantasme. Cet enfant va être tous les enfants du monde, tous les enfants de France, et comme il n'arrive plus à aller au lycée, c'est trop fatigant, il arrête, il est harassé de c'est très difficile l'enseignement aujourd'hui, et il perd espoir, il perd la niaque, il a moins envie, ça fait longtemps qu'il le fait, il a perdu sa femme et une de ses filles, heureusement il en reste une, et donc il est très lié avec elle. Mais on peut raconter l'histoire différemment, donc c'est la grande histoire dans la petite histoire, c'est l'histoire de l'enseignement, de la culture, de comment on peut transmettre, de comment un enfant qui sait à peine lire et écrire, tout d'un coup peut terminer en sachant très bien lire, très bien écrire, et espérer avoir un jour un travail dans notre pays que j'ai toujours envie de penser républicain, accueillant, et une chance et une terre nouvelle pour beaucoup de gens qui arrivent ici. Et accessoirement, il tombe sur un professeur ou sur un homme. Vous voyez, donc c'est la loi du marché, ou que ça soit en guerre, ou Un autre monde, ou Welcome. Et puis j'ai pas fait que des films
politiques. Non, bien sûr, mais je parlais de cela pour l'instant.
Mais en même temps, il y a de la politique partout. Mmh. Tout est politique. Parce que La crise, c'est un film politique. Colline Serrault, elle a 40 ans d'avance quand elle raconte l'alimentation, l'environnement. Donc c'est vrai que je suis toujours attiré par les films dont je me dis, si j'avais été au cinéma à les voir, ils m'auraient éveillé la conscience, dans un sens ou dans l'autre. Et si ces films éveillent ma conscience, ça veut dire qu'ils peuvent éveiller celle des autres. Et je pense que si un film change l'opinion, un livre, un film, une œuvre d'art, change la vie d'une personne, rien que pour ça, ça aura valu le coup de l'avoir fait. Juste une personne, deux c'est mieux, trois c'est encore mieux, et après un grand nombre c'est encore mieux. Donc sinon on fait rien. Si on est condamné à se dire, si ça ne touche pas tant de gens, un grand nombre de gens, alors je m'engage pas, alors on fait rien. L'intérêt c'est de participer, comme disait Pierre de Coubertin. Non mais faut faire, et faire rien et rien faire c'est pas pareil.
Alors vous évoquez Colline Serrault, il se trouve qu'elle était mon invitée dans cette émission il y a quelques semaines, et on évoquait à un moment ce qui était un échec commercial à sa sortie, le film La Belle Verte. Et dans cette émission, alors on venait d'écouter la fameuse tirade de votre personnage qui s'énerve contre un automobiliste dont il a frôlé le véhicule, avec le fameux « tu leur as dit merci aux vaches ». On va écouter ce que me disait Colline Serrault.
Ben, sur le moment, ça a été difficile à vivre. Mais en même temps, les échecs vous apprennent des choses. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est que le film n'est pas assez bien, ou alors est-ce qu'il est en avance? Est-ce qu'ils ont... J'étais vraiment très très sûre de moi en le faisant. Mmh. Et très sûre de... Enfin, sûre, sans arrogance, mais je savais que c'était ça qu'il fallait faire. Quoi. Mmh. J'avais un truc très très profond qui me disait, fais ça, c'est ça qu'il faut faire. Je voyais tout à travers ce scénario et je savais que c'était juste. Mais bon, j'ai pas rencontré le public à ce moment-là. Des insultes des journaux, là, je vous dis même pas, là, c'était vraiment, j'étais traînée dans la gadoue. Mais en même temps, ça reconstruit, parce qu'on se dit, bon, bah, au moins si j'avais la grosse tête, là, elle est en train de désenfler. J'avais jamais vraiment eu la grosse tête, mais là, elle a bien, bien désenflé, si jamais. Et puis je me suis dit, bon, on va attendre, on va voir. Et puis je me suis remis au boulot pour faire un autre film. De toute façon, c'est... tout ce que dit Vincent, là, c'est très profond. C'est très profond. Et c'est pas pour rien que cette tirade, elle est virale aussi. Moi, je l'ai entendue en Italie, traduite dans une radio de comique dans un autocar. Et c'était en... « Arrivederci le mucche ». Je me disais, mais je connais ce texte. Et tu leur as dit merci aux vaches. Et c'était toute la tirade en italien. Évidemment, sans aucun droit d'auteur. Mais je veux dire, et on s'en fout. Mais c'est donc... Ce qu'il dit, c'est recentrons où est l'important, quoi. Qu'est-ce qui est important dans nos vies? Qu'est-ce qui déraille dans les vies qu'on vit maintenant?
Alors on peut, en effet.
Je suis pas d'accord avec Colline.
Ah.
Ben non, parce que d'abord, je m'en souviens très bien. Le film a fait 950 000 entrées.
Ah oui?
Oui, à l'époque. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand vous faites 950 000 entrées, Le roi n'est pas votre cousin.
Mais quand on a fait Trois hommes et un coup, fait un peu de temps avant.
Oui, mais là on rentre. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Non, mais si on compare les choses, évidemment que une voiture française qui roule bien va moins vite qu'une Ferrari. Mais si on décide de ne pas monter dans la Ferrari et ne pas se souvenir que de la Ferrari, les voitures roulent bien. Donc, si on se base sans arrêt sur ce qu'on a fait, alors la vie est foutue. Ça veut dire que quelqu'un qui a eu une Palme d'Or, des prix et tout ça, donc sa vie va devenir un enfer, c'est-à-dire que parce que ça n'arrive pas deux fois ou c'est très très rare. Donc en fait, il faudrait décider que le succès n'arrive pas trop tôt, parce que s'il arrive trop tard, c'est triste, parce qu'on passe une vie à être un peu à la recherche. S'il arrive trop tôt, on passe une vie à se dire mais ça va pas revenir. J'ai fait fortune une fois, est-ce que je vais refaire fortune? Ce que je veux dire, c'est que ce film, ça veut dire quoi, un succès sur le moment ou un succès dans le temps? Pour moi, l'art, C'est pas grave que ça ne soit pas un succès sur le moment. Ce qui compte, c'est qu'on en parle plus tard. Là, aujourd'hui, elle le dit elle-même, c'est viral. Mais moi, je veux bien faire que des échecs si c'est viral dans 30 ans. Ça me va très bien. Plutôt que des succès énormes aujourd'hui qui vont être dévirales dans 3 mois. C'est-à-dire, c'est l'histoire de la mode, en fait. Alors, parfois, il y a des choses dans la vie qui sont et très fortes sur le moment et très fortes 30 ans après. Bon, ça s'appelle un chef-d'œuvre. C'est quand on a eu du génie. Quand on a simplement beaucoup de talent, eh ben, il arrive qu'on fasse quelque chose de très important qui s'étiole avec les années, qui soit plus vraiment à la page. Or, Colline Zéro, son chic, son génie, sa force, c'est qu'elle avait, elle a eu un moment 30 ans d'avance. Quand elle fait La Crise ou La Belle Verte, elle dit des choses 30 ans avant. Donc, La Crise s'est passée. Parce que c'était ce jour-là, c'était comme ça. Les gens avaient envie, c'était inconscient, on ne sait pas pourquoi. Et puis La Belle Verte, c'était aussi avec 30 ans d'avance, mais là, c'est pas passé. Sauf que ça devient viral 30 ans plus tard, au moment où on en parle. Donc moi, j'appelle ça un succès. Ouais, pour elle, c'est pas moi qui l'ai fait, donc je suis pas de... Je n'ai aucun souci avec ça.
Vous n'êtes pas pour rien, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et vous venez de dire, au fond, ce que je pense tout à fait moi-même. Mais alors,
Van Gogh, l'exemple absolu. Voilà, ouais. Il est bon de dire sans arrêt, tu sais, il mangeait pas à sa faim.
Ouais.
D'accord, il mangeait pas à sa faim, mais maintenant il mange à sa faim. Enfin, je veux dire, en tout cas, ceux qui ont un Van Gogh mangent à leur faim.
Oui, eux, oui. Bref, pause musicale avec votre choix pour cette émission, Vincent Lindon, puisqu'on demande chaque soir à nos invités de choisir une musique. Vous avez choisi une musique qu'a utilisée Oliver Stone dans le film Platoon, une musique qui a été souvent utilisée dans les films. D'ailleurs, c'est l'adagio de Samuel Barber. Pourquoi ce choix?
Parce que j'adore pleurer. Ah. Et de temps en temps, j'aime bien me faire pleurer. Et alors, je ne sais pas si tout le monde est comme moi, mais moi, j'aime bien dire et avouer des choses que j'ai l'impression qu'ils sont universels, mais que personne ou pas beaucoup de gens osent dire. Quand on est triste et qu'on pleure, en tout cas moi, il m'arrive même, je peux être devant une glace et me regarder pleurer. Je me fais de la peine à moi-même. Je suis triste de me voir triste. Ça me galvanise. Je me dis, tu vois, hein, t'en baves là. Je sais pas. Je m'aime bien. Comme si je vérifiais que j'avais des larmes et un cœur qui fonctionnait au quart de tour. Et j'adore être triste. J'aime beaucoup pleurer au cinéma. J'aime beaucoup être ému par les gens. Je suis un homme qui pleure très souvent, moi, mais ça passe assez vite. Mais j'ai pas de problème avec ça. Je réprime pas. Et cette musique, parfois, elle m'aide quand j'ai envie d'écrire un discours. Je la mets en boucle et elle me met dans un état où ce que j'écris est j'ai l'impression est plus poétique, plus profond, plus ça m'aide ça, et cette musique j'aime beaucoup l'écouter. Et là je vais être ému en l'écoutant et
je partage complètement,
je sais pas comment dire les choses, les musiques tristes ont quelque chose de... Par exemple, le jour où je ne serai plus là, j'espère qu'il y aura des musiques que je vais probablement choisir à mon enterrement pour que les gens soient vraiment très très tristes, quoi. Il n'y a pas de raison que ça rigole au moins pendant une heure, qu'il soit très 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 triste. Bon, je pourrais pas le voir, malheureusement, c'est un drame. C'est le drame, en fait.
Mais il y aura, notamment, dans la bande-son de votre enterrement...
Il y aura sûrement ça,
oui. L'adagio de Samuel Barber. pour une version un peu
resserrée. Bah, vous imaginez, le cercueil qui rentre avec cette musique, je pense que les gens sont à l'assistance et à deux doigts de vous reconnaître des qualités que vous n'aviez pas vivant, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est, ah, il était tellement génial. C'est-à-dire que la musique les a presque
conditionnés.
Ouais. C'est comme si vous fumiez un énorme joint et que tout d'un coup, tout est beau, quoi. Mm. Tout est génial. Non, mais c'est très émouvant, cette musique. Mm. Mais j'aime beaucoup la musique classique. Et j'en écoute pas très souvent, mais j'ai des crises comme ça.
Ce sont des bonnes crises.
Oui, ça fait un bien fou. Ça calme dans ce monde.
Ou ça fait se léviter aussi. Enfin.
Oui, enfin, c'est ce que j'appelle calmer,
ouais,
ça.
D'accord. Okay.
Dès que je me lévite, je suis calme.
On est d'accord. Bon, Oliver Stone l'a notamment utilisé pour Platoon. Voilà un film qui a rencontré son public, comme on dit. Alors le public, Vincent Lannelongue, j'aimerais bien qu'on en parle. Et je voudrais tout d'abord vous faire écouter, alors je ne dis pas votre collègue, je dis le patron, Jean Renoir.
Remarquez, je ne me rends pas compte très bien de ce que je fais ni de où je vais. Je puis dire, sans me tromper, par exemple, que le vrai sens de la grande illusion, à savoir la croyance, ma croyance profonde en une division du monde, non pas verticalement, non pas en nations, mais horizontalement, c'est-à-dire en tournure d'esprit, en nature humaine, et surtout en profession. Je crois beaucoup aux professions. La division du monde de cette façon, qui est un des thèmes de la grande illusion, il m'est apparu que j'avais travaillé dans ce sens-là que lorsque le film a été terminé, peut-être même lorsque je l'ai vu avec du public. Et ce sont les réactions du public qui m'ont indiqué ce que j'avais voulu dire. La grande chose est de partir sans vouloir formuler le message, je crois. Je crois qu'il faut attendre que le message se formule tout seul. Ou plutôt qu'il se formule malgré vous. Autrement dit, il faut être influençable. Personnellement, j'essaie d'être influençable. J'essaie de voir les hommes, de voir la vie, d'en prendre ce que je puis et de le traduire. Vous ne le découvrez que par le travail.
Alors, mais j'ai l'impression, on ne se connaissait pas, donc on n'est pas, on ne peut pas être accusé d'avoir travaillé avant.
Non.
J'ai l'impression, oui, vous, oui. Mais je veux dire, ensemble. Mais j'ai l'impression que vous m'avez mis que des choses que je pense à 1000%. Je vais vous dire, c'est quasiment un secret, sauf les metteurs en scène avec qui je travaille, qui travaillent avec moi. Je comprends pas grand chose de ce que je fais. Je travaille quasiment en phonétique. Je ne comprends pas toujours le fond des scènes. Et quand je lis un scénario, à la fin, je l'aime comme j'aime un aliment, mais je ne suis incapable de je suis pas quelqu'un qui aime aller dans les gastronomiques et pas du tout. Et c'est bon ou c'est pas bon, il y a des gars ils sont sympas, puis il y a des gars ils sont pas sympas, puis il y a des scénarios quand je les finis, j'ai envie d'être eux, je veux être lui ou je veux pas. Et je pense exactement comme Jean Renoir, je ne comprends pas toujours ce que je fais et je découvre à travers les journalistes, quand je fais la promotion d'un film, ce que je fais de moins en moins d'ailleurs, mais c'est par les questions des journalistes que je me rends compte du rôle que j'ai fait, de ce que veut dire le film. Alors, je feinte, hein, je le montre pas, mais j'ai deux cerveaux qui marchent en même temps. Il y en a un qui vite transforme tout ça et le passe en calibrage pour l'autre. Et après, tout d'un coup, j'agrémente avec un petit « oui, tout à fait ». Et d'ailleurs, et pendant ce temps-là, hop, je me lance, mais il y a beaucoup de choses que je découvre dans vos questions. Et il y a beaucoup de choses que je découvre quand je croise des gens dans la rue ou dans le public qui viennent me parler d'un film et qui me disent « ah, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est dans votre personnage, ce que j'ai aimé, c'est son côté ». Et je fais « bah oui, mais merci ». Mais moi, je ne veux pas me mettre des poids pareils, parce que sinon je suis redevable de ces choses que je vais mettre et donc je monte la barre à des hauteurs que je n'atteindrai pas. Donc j'y vais. En fait, je joue en amical. C'est un match amical avec mon personnage. Et si ça prend la médaille d'or, tant mieux. Mais sinon, je suis foutu. Donc je comprends très, très, très bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que si vous avez envie de passer un message très précis dans La Bête humaine ou dans La Grande Illusion, mais c'est fini, on peut pas avancer, il peut même pas aller sur le tournage. Le message est gigantesque. les hommes à l'horizontale, les femmes à l'horizontale, le monde à l'horizontale. C'est impossible. Donc il fait un film, il écrit une histoire, il met une scène après l'autre. C'est un peu, ça me fait un peu penser à ce que mon père me disait un jour. Il disait, tu sais, en fait, la différence entre Borg et les autres à l'époque, hein, il disait, il joue à peu près pareil au tennis, sauf que Borg, il met la balle de l'autre côté une fois de plus que l'autre. Et c'est comme ça qu'on gagne. Bah oui, il suffit de mettre la balle une fois de plus.
Oui.
Et pas penser à... Voilà, bon, là, j'ai fait une troisième métaphore, c'est un peu... Il n'y en a pas besoin, mais...
Mais elle est belle.
Voilà, donc je ouais, passer trois personnes où je pense vraiment à 100% comme eux.
Bon, allez, je vais tenter le quartet, puisqu'on est sur la métaphore sportive. On va... Parce que Jean Renoir, il évoque l'importance des métiers de ces personnages. C'est aussi quelque chose dont je parlais avec Grégory Gadebois.
Et si je peux me permettre...
Oui. Allez-y, va,
en plus, ce que j'ai remarqué, la force des films américains de temps en temps, des films auteurs américains, et ce que moi j'aime beaucoup dans, en tout cas ceux que j'ai fait, mais on n'a pas le monopole, il y a d'autres films où ça se passe aussi, c'est que si vous montrez un personnage, femme ou homme, dans les 5 premières minutes du film, en train d'exercer son métier bien, c'est un bonus pour toute l'histoire, on n'a plus besoin d'y revenir. Et c'est très très, très important, ça.
Alors, justement, Grégory Gadebois, dans cette émission, c'était l'an dernier, au moment de sortir les choses simples.
Moi, j'essaye un peu de... Mais parce que je me sens coupable, sinon. De faire le... C'est-à-dire qu'on fait un policier, il faut se renseigner de la gestuelle du policier. Mmh. Et de... Parce que c'est pas qu'un métier, souvent le métier des gens, je trouve. C'est aussi une manière de voir le monde. Moi, je dis toujours, un comptable voit pas le monde de la même manière qu'un déménageur, ou qu'un, parce qu'il n'a pas les mêmes, il n'a pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes, donc oui, les gestes, puis c'est rigolo d'apprendre. Là, j'ai appris à faire un peu le bois avec des vieux outils. Mmh. Des outils qu'on n'a plus aujourd'hui, quoi. Et ouais. Le bois, je suis nul, moi, j'aime pas ça, je préfère la ferraille. Je trouve que le métier, c'est, les gens, soit ils le choisissent, comme nous, ouais, mon métier, je l'aime énormément, mais beaucoup de gens l'ont pas choisi spécialement, le subissent. Enfin, on a toujours un rapport au métier qui est assez direct, qui conditionne tout le quotidien, toute la vie de la personne.
Alors, pas d'accord.
Alors d'abord, je voudrais juste vous faire remarquer qu'il dit que le bois, c'est pas son truc, il s'appelle gars de bois, c'est un gars de bois. Donc,
il a un problème avec lui-même.
Il a un problème, c'est en psychanalyse, c'est intéressant, c'est entre 200 et 300
séances. C'est bien vu.
Mais alors là, je ne suis pas d'accord avec lui. Enfin, je suis moitié d'accord avec lui. Oui, pour les métiers extrêmement précis, c'est sûr que pour...
Là, il jouait un ébéniste.
Alors là, il faut apprendre un peu. Mmh. Mais sinon, non, je ne m'entraîne pas et j'essaie pas de comprendre comment un boulanger, un boucher, un agriculteur, un notaire, un avocat pense. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que non, je pense pas que les métiers font qu'on voit le monde différemment. Non, ça serait pas possible. Et je trouve ça même presque un tout petit peu, pas insultant, c'est pas le mot, mais un peu...
Mais c'est un rapport au monde différent, ça que vous voulez dire.
Ah oui, mais alors, mais pas vraiment. Vous remarquerez que les choses qui sont pas les mêmes pour les différentes castes sociales, c'est des choses rares. La baguette coûte le même prix, le litre d'eau aussi, l'entrée au cinéma pareil, un litre d'essence pareil.
Oui, mais il y a ceux qui connaissent le prix et ceux qui les connaissent pas.
Oui. Non, non, tout le monde connaît le prix, mais il y en a qui peuvent se l'offrir plus facilement que d'autres. Mais on a la même... j'ai toujours pensé qu'un franc, c'était un franc. Qu'un euro, c'était un euro. Après, il y a des gens qui en ont plus que d'autres. Mais ce que j'essaye, moi, c'est de... Je chine, je regarde, je me mets à les terrasses de café, c'est la même chose. Mais j'essaie pas d'aller particulièrement m'entraîner à faire la chose. Je regarde et je décide que si on m'a pris moi, c'est parce qu'on a envie que ça soit moi qui soit agent de police, par exemple, qui fait la circulation. Donc je vais la faire à ma manière, parce que personne ne la fait pareil.
Mais maître nageur, pour reprendre, ou grutier, qui sont des métiers spécifiques, il y a quand même...
Maître nageur, j'ai regardé qu'une chose, mais j'ai pas été à la piscine pour regarder un maître nageur. Je me suis souvenu des maîtres nageurs que j'ai vus toute mon enfance, c'est qu'une démarche...
Des claquettes.
Mais c'est juste ça, et 1, 2, 3, on allonge les bras, et 1, 2, on souffle, 3, 4. Et quand vous parlez comme ça, vous marchez comme ça. Mais j'ai pas été passer des heures à la piscine. Sinon, j'ai l'impression que je ne laisse plus d'espace à moi. Et donc je vais me mettre une pression énorme. Vous avez compris, donc j'aime pas beaucoup me mettre des pressions.
J'ai compris.
Je vais essayer d'être aussi bon qu'un vrai maître nageur. Or, il faut juste accepter d'être le maître nageur qu'on va être soi. Mmh. Avec sa tête, son nez, sa bouche, ses yeux, c'est-à-dire avec son physique à soi. Mmh. Donc, par essence, vous allez proposer un autre maître nageur. Voilà, c'est... Je sais pas si je suis très clair dans ce que je raconte.
Mais... Si, mais moi j'ai suivi, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent.
Moi, en tout
cas,
je suis pas trop suivi, c'est pour ça que je pose la question.
Mais c'est pas grave, parce que c'est vous qu'on a envie d'entendre, pas moi. Comme un fils, qui sort demain, c'est un cas un peu à part, ai-je lu, puisque vous avez été un participant actif à l'écriture du film. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça permet?
Alors, j'y étais... un participant actif à l'écriture du film, mais sans écrire une ligne. C'est Nicolas qui a tout écrit, mais il a écrit après beaucoup de rencontres, beaucoup de déjeuners, beaucoup de discussions, beaucoup de scènes que j'ai jouées à la lecture devant lui. C'était pas du tout cette histoire au départ. C'était une histoire qui a été sans arrêt en évolution. Les Anglais diraient en work in progress, sans arrêt en évolution, sans arrêt. Il n'avait pas ce prénom. Il devait avoir une arme. C'était pas un enseignant. C'était un autre métier. Il avait un papa qu'il allait voir à l'hospice. Il a plus eu de père. Après, il avait toujours sa femme, mais il avait perdu une petite fille. Après, ça a été.
C'est un échange entre vous deux.
Oui, c'est des choses qui tout d'un coup butent. C'est-à-dire que une idée est belle, elle avance, et puis tout d'un coup, Nicolas Boukrieff me dit, mais après, je sais plus quoi faire de ça. J'ai chargé ton personnage avec ceci et cela, et je l'utilise plus. Ça veut dire que c'est le film qui décide, c'est les pages du scénario qui décident. Ça veut dire que ça n'a pas lieu d'être. Revenons un petit peu en arrière. Et ça a énormément changé. Je compare un peu ce film et Nicolas Boukrieff à un sculpteur. Il est parti avec une grosse boule de terre glaise, et de ça a été extrait quelque chose qui a emmené, ou comme dans un arbre, un tronc d'arbre, on part dans une branche, un peu sur la gauche, qui vous emmène sur une autre branche, encore une autre, un peu, on décale, et à la fin on se retrouve à une extrémité de l'arbre qui est complètement à l'opposé de l'autre, alors qu'au départ...
On aurait pu prendre l'autre.
Mais surtout, le point où on est parti d'un côté n'est qu'à un centimètre de l'autre point. C'est un peu comme en bateau. Vous êtes capitaine de navire. Pendant 3 minutes, vous lâchez le gouvernail et vous allez vous le bloquez. Et il n'est pas pile bloqué comme il faut pour aller tout droit. Mais il est bloqué de rien, d'un demi-millimètre. Vous partez déjeuner dans la cabine, vous remontez, vous reprenez votre gouvernail, mais le millimètre sur 3 heures, il est devenu... et donc, au lieu d'atterrir à Hambourg, vous atterrissez à Dunkerque. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pas la même histoire, oui.
Mais non, mais donc, parfois, je crois que beaucoup de films sont comme ça. Et même nous, nos décisions, notre jeu, les tenues, comment on s'habille, la vie, le nombre de fois où on se dit, quand on visite un endroit pour habiter, on dit à l'autre, celui-là, il n'est pas bien. Mais non, de toute façon, il n'est pas bien, c'est le premier qu'on voit. Donc, c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Et pourquoi ce serait pas le premier truc qu'on voit qui plaît? Et pourquoi ce serait pas la première personne qu'on rencontre, dont c'est l'histoire sérieuse avec qui on passera un grand moment de sa vie? Et pourquoi? Parce qu'on est complètement fabriqué, l'esprit est fabriqué de manière à essayer de suivre des chemins comme ça. Et quelquefois, un scénario, on dit oui. Et pourtant, une fois que j'ai dit oui, le metteur en scène fait, ben écoute, je suis très content que t'aies dit oui, mais ça va pas être ça l'histoire. C'est comme ça que ça a bougé. Et c'était très intéressant. Il m'a laissé rentrer dans la boucle. Et c'était passionnant. C'est la première fois qu'on travaille comme ça.
Et un tout petit mot peut-être sur ce tournage, parce qu'il y a donc déjà un très jeune acteur, débutant forcément, de nombreux non-professionnels. Nicolas Boukrieff a expliqué qu'il a fallu une certaine souplesse sur le tournage. Bon, il y a Eric Gauthier, qui est le chef-op, qui est très important. Mais est-ce que, du coup, il y a une latitude laissée dans le jeu, dans les déplacements? Est-ce que ça vous a intéressé?
Dès que vous jouez avec quelqu'un qui est ou un adolescent, ou dont ça n'est pas le métier, on est obligé d'être souple et de suivre ce qui va se passer. Parce qu'il y a une invention chez ce jeune garçon incroyable, et que si juste on est à l'écoute, qu'on sait son texte par cœur évidemment, mais qu'on est à l'écoute, et qu'on écoute ce qu'il vous dit et le rythme avec lequel il fait, on ne peut pas ne pas être bien, on se colle à lui. C'est toujours pareil. Vous allez dire que je fais beaucoup de métaphores avec le sport, mais vous savez, quelquefois quand on joue avec un, on va en vacances et on joue avec quelqu'un qui joue très 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 bien au tennis, ou un tout d'un coup on prend trois cours de tennis, ou on rencontre un copain ou encore un grand cousin qui a des balles tendues, qui joue vraiment vraiment bien. La première chose qu'on fait quand on rentre, on dit là je peux vous dire les gars, vous allez voir ce qui va vous arriver. Je crois que je commence à bien toucher ma bille au tennis. Mais non, c'est parce que ces balles arrivent au bon endroit, elles arrivent toujours bien où il faut dans notre raquette, et que les balles sont tendues. Dès qu'on joue avec un copain qui fait des balles en cloche, on s'énerve et on joue encore plus mal que lui. Donc en fait, quand on a un bon acteur jeune en face de vous, il n'y a qu'à se laisser traîner. C'est toujours pareil. On joue à deux. Si on est un acteur qui joue pour lui tout seul et qui a un ego mal placé, et qui pense qu'à l'effet qu'il va faire, bah, tout est raté, le film est raté, on est raté, on n'est pas bon, et l'autre, pareil, c'est toujours pareil, c'est pareil partout, c'est une affaire de générosité.
Et il y en a beaucoup. Dans ce film de Nicolas Beaucrieff qui sort demain, il s'appelle Comme un fils, alors allez-y dès que vous pouvez, demain matin si vous êtes disponible, un peu plus tard dans la journée ou plus tard demain soir. Merci beaucoup Vincent Lindon d'avoir été notre invité.
C'est déjà fini ?
Bah oui, déjà.
Ah oui. Eh ben, merci beaucoup, j'étais très content.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Si le succès en salle du biopic sur Bob Marley témoigne d'un intérêt toujours présent pour sa musique, l'histoire du reggae ne s'est, loin s'en faut, pas arrêtée à la mort de son héros en 1981. Le continent africain a été, dès les années 80, un terreau fertile du genre. Alors, si Alpha Blondie a ouvert la voie en Côte d'Ivoire, Tikenja Fakoly ne s'est pas fait prier pour lui emboîter le pas. Il a débuté en 87 avec son groupe Jellies. Il est rapidement devenu un incontournable de la scène musicale ouest-africaine, au point qu'il a pris son envol en solo en 1997. Figure de l'artiste engagé, il n'a eu de cesse d'alerter les consciences sur les conséquences du colonialisme et de la corruption sur le continent. Le public français a eu l'occasion de l'entendre dans différents festivals d'été où il a défendu des morceaux mémorables comme Plus rien ne m'étonne, Tonton d'América et Africain à Paris, des morceaux qu'il est désormais possible d'entendre en version acoustique dans un album simplement intitulé Acoustique, où figure notamment le titre Enfant de la rue, paru dans sa version originale dans l'album Braquage de pouvoir en 2022. Il aborde les épreuves violentes que vivent les enfants de la rue. C'est notre son du jour.
Tu m'avais dit que quand je serai grand, j'aurai toute l'éducation possible. Tu m'avais promis aussi, oui tu m'avais dit, que j'aurai toujours une famille. Maintenant je suis là, papa, mais je n'ai jamais demandé à être ici. Maintenant je suis là, papa, je n'ai jamais demandé à être ici. On m'appelle souvent enfant de la rue, mais la rue n'a jamais enfanté. On m'appelle aussi enfant abandonné, car pour moi, papa, tu as disparu. Où es-tu passé, mon papa? Dit que quand je serai grand, j'aurai toute l'éducation possible. Tu m'avais promis aussi, oui tu m'avais dit, que j'aurai toujours une famille. Où es-tu passé, mon papa? Tout le monde me demande où tu es, papa. La rue n'a suis la papa.
C'était Enfant de la rue de Dikenja Fakoli, le musicien qui sera en tournée dans toute la France avec des concerts à Bordeaux le 8 mars, à Plaisir le 9, à Dole le 15, à Thonon-les-Bains le 23, à Lille le 27.
France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous ce soir ?
Bonsoir Arnaud, je me trouve à Saint-Denis dans le 93 pour vous faire vivre la deuxième édition du festival de cinéma Regard Satellite. L'événement se déroule jusqu'au 11 mars prochain à l'écran de Saint-Denis et propose de découvrir un cinéma indépendant et original venu du monde entier. Alors au programme ce soir, un documentaire japonais sur des sans-abri expulsés d'un parc à cause des JO de Tokyo, puis une carte blanche du réalisateur Yann Gonzalez et du chanteur Olivier Sim du groupe The XX qui nous propose une compilation des vidéoclips qui les ont marqués et influencés depuis leur adolescence.
Oui, bonjour, je m'appelle Dimitri Yanni, donc je suis critique, chercheur indépendant, spécialiste du cinéma japonais contemporain et co-organisateur donc, de l'association Fenêtre sur le Japon, qui donc invité cette année au festival Regard Satellite.
Parlez-nous du film que vous allez présenter ce soir.
Alors, cette année, on nous a donc proposé une carte blanche et nous avons décidé de programmer le film « Vivre à Tatekawa » de la réalisatrice Yoko Yamamoto. Alors, en particulier, ce qui nous a, disons, inspiré à programmer ce film, c'est que on y parle de, justement, personnes qui vivent, en tout cas qui essayent de vivre et de survivre en marge de la société, notamment voilà des sans-abri, et qui sont, pour des raisons qui résonnent avec l'actualité française, expulsés, dont on essaye d'expulser la présence en vue donc, de la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo.
Justement, quelle résonance ça a de présenter ce film ici à Saint-Denis, une ville qui va accueillir le village olympique et les épreuves des JO ?
Disons qu'on essaye aussi à travers le festival de travailler des questions sociales à travers les films proposés, je dirais, un questionnement sur des questions sociales d'actualité. Alors là, il se trouve que les questions sociales japonaises, je dirais, s'entremêlent ou en tout cas résonnent avec les questions françaises, puisqu'elles sont de toute manière universelles, hein, c'est le rapport de l'individu aussi à la collectivité, à la société, et puis là en l'occurrence à l'État. Et effectivement, on a pu voir récemment un certain nombre de manifestations, notamment devant, je crois, l'hôtel de ville, de collectifs qui justement essayaient de faire valoir leurs droits, en tout cas de faire en sorte qu'on respecte l'environnement, leur lieu de vie.
Est-ce que ce documentaire, Vivre à Tatekawa, s'inscrit dans une tradition japonaise du film social ou est-ce que c'est un genre absent du cinéma nippon ?
Alors non, bien sûr, il y a une tradition très vivante du cinéma documentaire et je dirais même du cinéma militant. Peut-être que certains ont entendu les noms de notamment Shinsuke Ogawa ou Noriaki Tsushimoto, qui sont deux figures emblématiques du cinéma documentaire et militants des années 60, 70, mais même au-delà. Mais dans l'esprit, oui, on peut dire que c'est un film qui montre un regard différent des documentaires, je dirais, entre guillemets, plus classiques. Donc il y a évidemment un regard politique du côté, en fait, des gens même, quoi. Le réalisateur n'est pas neutre.
Bonsoir. Je voudrais remercier l'équipe de ce festival pour son invitation ce soir. Et je suis très contente de pouvoir partager ce film avec vous ce soir. Et le tournage de ce film a été une longue aventure pour moi qui a duré de 2012 à 2019. Je vous laisse le voir d'abord et je serai content d'en parler après. À tout à l'heure.
Alors, je viens de sortir de la séance. Bonsoir madame, qu'est-ce que vous avez pensé du film ?
J'ai été très touchée par le fait que ces personnes travaillent beaucoup collectivement, ensemble. Et on a souvent l'impression que les sans-abri sont des gens très isolés. Et ces personnes-là forment un collectif et puis elles cherchent aussi à entrer en contact avec le reste de la ville. Et j'ai trouvé que c'était assez miraculeux.
Et vous, monsieur ?
J'ai trouvé ça très intéressant, l'angle utilisé dans le film pour montrer vraiment la dignité de ces hommes qui vivent à la rue, mais qui font tout ce qu'ils peuvent pour se rendre utile à la société, pas être victimes de leur situation, mais continuer à se battre. Il y a quelque chose d'assez admirable là-dedans, et qu'elle ait voulu le montrer comme ça, je trouve que c'était un angle hyper intéressant pour un film qui a un côté assez amateur, à part ça, qui est très simple, fait avec des bouts de ficelle, très militant. On sent que c'est plus une militante avant tout qu'une réalisatrice, mais voilà. Donc assez réussi, très content de l'avoir vu.
Bonjour, je suis donc Laurent Calonnec, je suis le directeur du cinéma L'écran de Saint-Denis et du festival Regard Satellite.
Quel est l'ADN du festival Regard Satellite ?
L'idée, c'est de sortir un petit peu peut-être de vision du cinéma un peu classique et d'explorer, je dirais, des formes de cinéma multiculturelles, aussi très divers dans leur approche de ce que c'est le monde et comment le montrer. L'idée de fond, c'est où se situe aujourd'hui un cinéma, je qualifierais non dominant, c'est pas nécessairement par confrontation, mais effectivement, où est-ce que se situe un esprit, effectivement, que j'ai toujours trouvé à travers l'histoire du cinéma, d'aller à l'encontre des modèles et d'essayer d'en proposer de nouveaux, ou en tout cas de faire émerger quelque chose, un désir de nouveau cinéma, de nouvelle expression.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est un festival politique ?
Politique dans le sens où, pour moi, un cinéma, un lieu où les gens se réunissent, c'est une agora. Et donc, effectivement, c'est de façon politique. Je veux dire, on ne peut pas, pour moi, s'éloigner l'idée d'un groupe de personnes et effectivement, qui se réunissent, doit de la politique. Donc, le cinéma est par nature politique. Donc, après, on peut le considérer comme un divertissement. Il en est un aussi. Mais pour moi, l'idée, effectivement, c'est une idée politique, oui, dans le sens où, effectivement, je pense que à travers le cinéma, il y a quelque chose qui permet de rencontrer autre chose. Il y a un rapport d'altérité, je dis souvent, en plaisantant, qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident au cinéma, c'est-à-dire de rencontrer une autre forme de récit, une autre forme de regard. Et c'est pour moi, de fait, l'intérêt d'un festival ou d'un cinéma, c'est de pouvoir justement pouvoir se projeter dans quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on peut rencontrer à travers des images et d'autres pensées.
Et au-delà du festival, on se trouve ce soir dans un cinéma, l'écran de Saint-Denis, qui se trouve dans la ville du même nom. Comment est-ce que vous pourriez décrire le lieu ?
Ce que je voulais dire en ce cinéma, c'est que c'est un espace peut-être petit, peut-être effectivement en Seine-Saint-Denis, un territoire aussi très multiculturel, et je pense que le festival d'ailleurs le représente en soi aussi là-dessus. Mais c'est effectivement un lieu où on peut rencontrer les gens à un niveau, je dirais, transversal, c'est-à-dire que les réalisateurs, les réalisatrices, les acteurs, les actrices, enfin tous les artistes qui viennent sont en contact avec le public. Et ça, c'est pour moi assez important. C'est pas une idée de paillettes, c'est une idée effectivement de moments, d'espace commun où en fait on peut croiser, discuter, dialoguer avec les artistes en général, ceux du cinéma en particulier bien entendu, d'une manière bienveillante, j'ose à dire.
Bonsoir. Le programme que vous allez voir maintenant, c'est donc il s'inscrit dans une carte blanche que nous a offert le cinéaste Ian Gonzalez. Et ce soir, il a un invité pour cette séance. Il est venu avec Oliver Sim, que vous connaissez sûrement pour son travail avec le groupe The XX. Et je vais vous demander maintenant d'accueillir chaleureusement Ian Gonzalez et Oliver Sim. S'il vous plaît.
My French is terrible.
Mon français est terrible.
But salut. Thank you so much for all being here.
Mais pour introduire un peu plus le programme de ce soir, je crois qu'on avait vraiment surtout, c'est un peu ce que je disais à propos du film de Bagaraki, on avait surtout envie de se faire plaisir, de vous faire plaisir, et de nous raconter un peu à travers les clips qu'on a aimés, les clips qu'on a découverts quand on était enfant, adolescent. Voilà, moi j'ai l'impression d'être aussi ouvert au cinéma, en partie grâce aux clips. Je pense que voilà, les clips, pour moi, c'est aussi ma formation, mon éducation sexuelle, horrifique, mon éducation au montage, à l'image, à l'esthétique. Voilà, c'est une sorte de labyrinthe musical.
Merci beaucoup.
Bonne séance.
Merci.
Suite du grand tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, changement de décor, je serai à Marrakech, au Maroc, pour vivre avec vous le festival On Marche, un festival de danse. Et merci à Marceau Bassi pour la prise de son.
À demain, Marie. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, était écoutée ou podcastée sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Emma Roberti.